Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus en dépit des difficultés de transport qu'on peut avoir actuellement. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir pour cette seconde séance du séminaire de la chaire Migration et Société, donc Françoise Lorcery et Géraldine Bozek. Alors Françoise Lorcery est directrice de recherche au CNRS, émérite. Elle a passé beaucoup de temps à travailler à la croisée des études sur l'éducation, des études sur les migrations. C'est une politiste, mais enfin, c'est bien plus qu'une politiste. Elle est sociologue, elle connaît très bien le monde arabo-musulman. On lui doit un certain nombre de publications tout à fait passionnantes. Il y a notamment un livre sur la question ethnique à l'école, qui est la façon dont j'ai fait la connaissance de Françoise, parce que c'est un livre absolument formidable, qui n'a pas vieilli, qui commence, je ne sais pas de quand il date, années 90 par là, 2003, voilà, mais qui est un livre vraiment de référence, parce qu'il commence, et ça c'est là. La marque de fabrique de Françoise commence par exposer de façon extrêmement claire toutes les théories en présence sur ces questions-là, et ça n'est pas facile. Donc une longue expérience, non seulement de recherche, mais aussi d'expérimentation de nouvelles formules dans les établissements scolaires, ou les établissements donc essentiellement dans les académies du sud de la France. Donc, une dame qui a beaucoup d'expérience, pour qui j'ai beaucoup de respect, je dois dire. Géraldine Bozek, nous nous connaissons depuis qu'elle a été une des lauréates de la Fondation pour les sciences sociales, dont je m'étais occupé tout à fait à sa création. Et elle est maintenant donc chercheuse à l'URMIS. L'URMIS, c'est l'unité de recherche migration et société. D'ailleurs, quand j'ai créé le nom de ma chaire, enfin, j'ai proposé le nom de ma chaire migration et société, j'ai plagié, en fait, sans même y réfléchir, le nom de l'URMIS, l'unité de recherche migration et société, qui est une des deux, avec Migrinter à Poitiers, une des deux grandes unités de recherche sur les migration en France, partagée entre l'Université Paris Diderot, qui est maintenant incluse dans un ensemble plus vaste, l'Université de Nice, qui est maintenant l'Université Côte d'Azur, c'est ça, et c'est là que Géraldine officie. Mais il y a aussi d'autres organismes, et le CNRS, évidemment, est partie prenante. Donc, nous avons là deux chercheuses qui occupent des positions tout à fait centrales dans la recherche sur les migrations. Et c'est avec un très grand plaisir que je vais leur donner la parole. Nous allons commencer par Françoise, si tu veux bien t'installer. À toi la parole.
Voilà. Bonjour à tous et merci à François pour cette invitation à son séminaire. C'est vraiment pour moi une chose nouvelle et j'espère que je vais bien maîtriser en plus mon ordinateur. Je n'ai pas l'habitude du tout de parler sur un écran. Mais je n'ai pas pu tirer mon exposé, ce qui fait que je vais devoir le maîtriser à l'écran. Je vais donc vous parler de un sujet que je vais d'abord expliquer, la doctrine française de l'intégration. Comment et pourquoi a-t-elle évolué et quelle déclinaison elle a à l'école. Ma question de départ est la diversité socio-ethnique est-elle prise en compte dans l'école française et sous quelle forme? C'est une question que nous avons posée collectivement en fait, dans un réseau qui s'appelle le Réseau international éducation et diversité, un réseau qui réunit des chercheurs du Québec, de la France, de la Suisse romande et de la Belgique wallonne, pour un livre qui va paraître incessamment au PUR et où Géraldine est auteure aussi. Une façon de répondre à la question, c'est de se demander quels sont les grands encadrements qui organisent la prise en compte de la diversité dans les pays et à partir de quoi les praticiens, dans les écoles en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, sont légitimes à concevoir et à mettre en œuvre des pratiques à partir de quoi les inspecteurs inspectent, à partir de quoi les formateurs forment, etc. Et en l'occurrence, donc, qu'est-ce qu'il en est en France ? Une autre dimension de ma question, à laquelle je ne traiterai pas, serait qu'est-ce que la diversité socio-ethnique fait à l'école ? Comment est-ce qu'elle impacte l'école et sous quelle forme ? C'est une autre question dont je ne parlerai pas. Ma question donc suppose de saisir l'encadrement normatif des pratiques pédagogiques ou scolaires en la matière. Où ce cadre se donne-t-il à lire et qu'est-ce qu'il dit ? Pour l'école, la question n'est pas du tout évidente en France, car à la différence des pays et des autres pays qu'on a analysés, car le ministère de l'Éducation nationale n'a pas produit directement de discours sur la prise en charge de la diversité socio-ethnique dans la population scolaire. Lorsqu'il parle de diversité, c'est exclusivement de diversité cognitive, au niveau des connaissances des élèves, leur parc scolaire, etc., et pas du tout au sens sociologique ou encore moins socio-ethnique du terme. Or, il y a dans les programmes actuels en tout cas, des thèmes comme vivre ensemble, lutte contre les discriminations, qui impliquent, implicitement au moins, de reconnaître la pluralité sociétale, mais sur le fond du silence sur l'existence de cette diversité, comment, dans quel horizon d'attente se situe, d'action, pardon, se situe les praticiens, ce qu'on peut demander, c'est mon questionnement dans cet exposé. Pour avancer dans ce déblayage, j'ai choisi de mobiliser la notion de doctrine. C'est une notion qui vient du droit et que connaissent bien les juristes, ils s'en servent, même s'ils reconnaissent assez unanimement, je m'en suis rendu compte en faisant la recherche sur ce sujet, que c'est assez difficile de définir la doctrine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on distingue la doctrine de la science, du droit, d'une part, et de la jurisprudence, de l'autre. La science du droit est défini par le fait de mobiliser les sciences sociales pour analyser le droit, ses méthodes, ses fonctionnements et ses résultats, tandis que la jurisprudence est l'ensemble du travail et des décisions des juges, c'est bien connu. La doctrine, alors, je me suis appuyée sur un article de Jacques Chevalier qui, me semble-t-il, donne un cadrage utile pour nous dans un article dans la revue Droit et Société, 2002. J'ai la slide de bibliographie à la fin. La doctrine, dit-il, est alimentée par des auteurs qui ont de l'autorité. Ils ne font pas autorité, mais ils ont une certaine autorité, une certaine capacité d'influence. Elle n'a pas la même posture et pas la même perspective que la science, car elle participe au processus de production du droit. Elle n'est donc pas à distance de la production normative, elle l'infléchit, elle se situe dans le processus de production du droit. Je cite Chevalier, il s'agit d'apporter une contribution, il s'agit pour la doctrine, d'apporter une contribution de toute première importance au bon fonctionnement de l'ordre juridique par un travail de mise en cohérence, d'élimination des dissonances, de résorption des contradictions. Ce faisant, la doctrine fait œuvre dogmatique et contribue à la production de la normativité juridique. Fin de citation. Donc la doctrine participe au processus de production des règles. Et comment ? De quatre manières, selon Chevalier. Par une activité d'interprétation des règles, donc elle produit du sens pour les règles qui existent, la réglementation. Elle fait un travail de systématisation des règles. Elle produit de nouvelles représentations de ces règles. Et elle participe directement à l'élaboration d'une nouvelle norme. Donc, dans le travail doctrinal, les aspects descriptifs et normatifs, constatifs et performatifs, sont étroitement mêlés, voire indissociables. C'est encore une citation de Jacques Chevalier. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des discours politico-administratifs relatifs à l'intégration et à la pluralité socio-ethnique ? En ce domaine aussi, on peut distinguer de la science, des approches qui se veulent scientifiques, sociologie de l'intégration, psychologie sociale, des rapports entre groupes, analyse des politiques publiques, d'intégration des villes, analyse des politiques de lutte contre les discriminations, etc., etc. Donc des approches scientifiques, d'une part, de l'action publique aussi, des circulaires, des discours d'inspection, etc., des représentations profanes, et, c'est mon hypothèse, un travail doctrinal mené par des personnes qui ont de l'autorité, c'est-à-dire qui ont une certaine influence, à défaut d'être obéis, et ils ne sont pas dans la chaîne hiérarchique. Un travail qui vise à donner de la validité à des représentations, pour partie issues de la science, mais qui acquiert une nouvelle force sociale en étant énoncée dans les conditions qui conviennent, vous savez, la théorie des actes de langage, et qui vont avoir pour visée de participer au changement des règles. Donc, en résumé, la doctrine politico-administrative, si elle existe bien, ce qui est mon hypothèse, n'est pas du discours politique, c'est un autre registre. Elle s'efforce de faire le pont entre des discours savants sur le sujet, le droit aussi, et la réglementation, de produire de nouvelles représentations pour mettre en ordre la réglementation et d'orienter finalement la production de la nouvelle réglementation. Sur l'intégration, cette doctrine politico-administrative au niveau du gouvernement a bougé. Je distingue ici le niveau du gouvernement, puis on viendra tout à l'heure à la question de l'école. Elle a bougé. Le cadre normatif dans lequel les fonctionnaires français doivent gérer la diversité post-migratoire a bougé sur les 30 à 40 dernières années. Les notions d'intégration, de laïcité ou encore de valeurs républicaines supposées encadrer l'action publique sur la réalité post-migratoire de la société française ont vu leur contenu normatif changer à plusieurs reprises depuis les années 80, et on pourra distinguer 5 étapes. Et je les suivrai à partir des rapports officiels qui traitent de la question, donc qui peuvent concentrer l'effort doctrinal au niveau politico-administratif. Ils ont pour beaucoup, vous le verrez, été réalisés par le Haut Conseil à l'intégration dans le temps de son existence, c'est-à-dire entre 1990 et 2012, date de sa dissolution. Ce Haut Conseil avait pour mission, je cite, « d'élaborer un rapport annuel » et d'émettre des avis consultatifs à la demande du gouvernement. C'est donc typiquement une instance de travail doctrinal. Il a connu plusieurs configurations en lien avec les changements politiques, on en parlera très rapidement. Et le dernier rapport officiel, par contre, n'est pas sur l'intégration, n'a pas été réalisé par le Haut Conseil. Il a été réalisé en 2013, après la dissolution du Haut Conseil à l'intégration, et commandé à un conseiller d'État, ayant une forte expertise de la question, Thierry Thuot, qui avait été précédemment directeur du FAS. On peut considérer qu'aujourd'hui, l'Observatoire national de la laïcité occupe ce rôle de travail doctrinal officieux pour ces questions d'intégration et de laïcité. On y reviendra. Le premier temps qu'on peut distinguer de ce mouvement d'élaboration d'une doctrine sur l'intégration, je le situerai en novembre 1989. Et en fait, c'est le premier temps de l'énoncé d'une doctrine libérale, qu'on peut appeler libérale, de la laïcité. C'est une interprétation du droit de la laïcité qui nous arrive par le Conseil d'État lui-même, dans un avis, donc autorité parmi les autorités. Le Conseil d'État peut faire jurisprudence quand il rend des décisions, mais ici c'était un avis, dans l'affaire de l'exclusion des 3 jeunes collégiennes d'un collège de Creil à la rentrée 89. Le ministère de l'Éducation nationale, on connaît maintenant bien l'histoire, hein, avait saisi pour avis le Conseil d'État dans cette affaire. L'avis rendu précise la doctrine du droit administratif en la matière, à savoir la laïcité, dit le Conseil d'État, est un principe organisateur, je ne cite pas là, je résume, un principe organisateur des libertés publiques. Elle implique d'attribuer des libertés différentes aux enseignants et aux élèves. Les premiers sont tenus à la neutralité. Les seconds bénéficient d'une liberté de conscience à définition très large, puisque le Conseil d'État se réfère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On y reviendra tout à l'heure. Le Conseil d'État en tirait cette solution, je cite maintenant, « Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses. » C'est-à-dire qu'il n'est pas contraire à la laïcité puisqu'il constitue l'exercice de la liberté d'expression. Laïcité couplée avec liberté d'expression et de manifestation des croyances, voyez. L'avis surprit l'ensemble du monde politique et intellectuel. Cette vision libérale de la laïcité française n'était pas celle que le monde entier considère comme la laïcité française, à savoir une version autoritaire et contraignante de la liberté d'expression. Voilà. Et donc, il y avait un décalage flagrant entre la laïcité selon nos droits et les représentations communes, ainsi que les idéologies ou les philosophies courantes de la laïcité. Pourquoi ce décalage? On peut se demander comment on en était arrivé là. C'est que, à mon sens, c'est une hypothèse, le droit français des libertés publiques s'était enrichi de façon importante après la Seconde Guerre mondiale, sans que grand monde s'en aperçoive, en dehors évidemment des juristes spécialisés. Et en particulier, la France avait accepté cet article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Elle l'avait accepté avec retard. Et cet article établit une protection très élevée des libertés religieuses, puisqu'il prévoit de respecter les libertés exercées individuellement et collectivement, en privé et en public, sauf réserve strictement définie de l'ordre public. Dans la mouvance des laïcs historiques, seule la Ligue de l'enseignement, qui est traditionnellement vouée à la défense de la laïcité et au travail doctrinal, justement, aussi, sur la laïcité, avait accompagné cette mutation normative par une réflexion éthique et politique rendue publique à l'occasion de son congrès de juillet 1989, c'est-à-dire avant l'affaire des foulards. On peut se reporter ici au travail historique de Jean-Paul Martin sur la Ligue, paru au Pur. C'est ce décalage entre le droit et les représentations communes et les idéologies de la laïcité, les travaux par exemple de Catherine Kinsler, de Henri Pénard-Ruiz notamment, qui va déclencher la recherche d'une doctrine publique nouvelle de l'intégration. Et déjà, la construction d'un concept nouveau, d'une notion juridico-administrative d'intégration. Et donc le deuxième temps de cet exposé historique, c'est 91, avec l'énoncé d'une doctrine de l'intégration qui fait une place au pluralisme culturel. Le mot d'intégration était déjà arrivé dans l'espace médiatique français au début des années 80, dans les années 83-84, avec les manifestations des descendants des immigrés maghrébins, algériens principalement, et nationaux français pour une bonne part déjà, lorsqu'ils firent irruption dans l'espace public avec une demande, vous vous souvenez, la marche des Deep Beur, une demande apparemment simple qui était égalité et dignité. Vous pouvez vous référer ici à l'analyse de Abdelali Hajat sur ces mouvements. La même demande et le même mot d'intégration avaient été scandés à nouveau lors des auditions de la Commission de la nationalité en 87. Et en 91, le premier Haut Conseil à l'intégration invente une doctrine pour la future politique française d'intégration en cherchant dans la tradition française, les voies d'une certaine reconnaissance symbolique du pluralisme culturel. Le vice-président du Conseil d'État, Marceau Long, responsable de l'avis sur le port du foulard déjà, et qui avait précédemment présidé la commission sur la nationalité, s'était vu confier la présidence de l'instance. Il produit alors une définition, c'est un juriste, hein, il produit une définition faite d'affirmations et de réserves. Je cite, « L'intégration consiste à susciter la participation active de la société, à la société tout entière, de l'ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol, en acceptant sans arrière-pensée que subsistent des spécificités, notamment culturelles, mais en mettant l'accent sur les ressemblances et les convergences dans les qualités des droits et des devoirs afin d'assurer la cohésion de notre tissu social. » C'est une définition qui est devenue un peu classique. Le début ne pose pas de problème, c'est la suite, c'est la deuxième partie qui va poser des problèmes. En effet, la doctrine cessait ici à une reconnaissance de ce qu'on allait nommer plus tard, officiellement à partir de 2005, la diversité. Et donc, le texte ne se positionne pas sur le registre de l'assimilation, c'est une nouveauté. Mais il se déplace maladroitement, on peut dire, d'une façon qui n'est pas satisfaisante d'un point de vue juridique, parce que la notion de spécificité culturelle n'a aucun fondement juridique. Elle désigne ce qui appartient à la sphère privée et ce qui est en principe protégé des incursions étatiques. Et elle est peu satisfaisante aussi du point de vue politique, puisque les descendants de l'immigration ne demandaient pas du tout le respect de leur particularité culturelle. Ils demandaient égalité et dignité, c'est quand même bien différent. Le texte laisse donc transparaître finalement une vision identitaire de l'intégration, qui concordait avec les représentations sociales majoritaires, mais moins avec le droit républicain, au risque de renforcer l'idée que l'immigration musulmane, puisque c'est à elle qu'on pensait, était un corps étranger dans la nation. En évitant le communautarisme, on en charriait quelque part la perspective. Le troisième temps de l'évolution est une innovation tout à fait remarquable dans le droit français. 98, l'intégration est requalifiée en lutte contre les discriminations et on débouche sur une définition réciproque de l'intégration. Donc le discours ici change sensiblement. C'est en octobre 98, par un discours de Martine Aubry, que le gouvernement a décidé de reconnaître l'existence des discriminations qu'on appelait à l'époque raciales. Le rapport 1998 du Haut Conseil à l'intégration, qui titrait sur la lutte contre les discriminations, avait précédé cette décision, et on voit bien ici à l'œuvre la préparation doctrinale effectuée par ce Conseil. Élaboration de nouvelles représentations, préparation à de nouvelles décisions. Le Haut Conseil posait cette définition de la discrimination, c'est toute action ou attitude qui conduit à situation de départ identique, un traitement défavorable de personnes du fait de leur nationalité, origine, couleur de peau ou religion, qu'une intention discriminante soit ou non à l'origine de cette situation. La définition s'est aujourd'hui enrichie de nouveaux critères, mais la structure demeure, et ce qui est important, je vous le rappelle, c'est que ce n'est pas l'intention qui fait la discrimination, c'est le traitement reçu par les gens comparativement à d'autres. La décision gouvernementale, comme le rapport, faisait suite à la mise en évidence statistique, ce côté scientifique, de la nouvelle doctrine, des discriminations à l'emploi à l'encontre notamment des jeunes d'origine algérienne, puisque c'était les seuls pour lesquels, à l'époque, la statistique pouvait fonctionner. La lutte contre les discriminations devint alors un axe doctrinal de la politique d'intégration. Ce changement s'accompagnait forcément d'une redéfinition de la cible du problème de l'intégration. Dans l'approche intérieure, la cible de la politique d'intégration, c'était les travailleurs immigrés et leurs familles, qu'il fallait aider à s'intégrer dans la société. L'approche nouvelle était forcément plus complexe. Sans négliger les premiers bénéficiaires, la cible se déplaçait en direction des jeunes et de la société majoritaire. Et de fait, les sources de la discrimination sont dans la société majoritaire ou dans les fonctionnements des institutions. On postulait dès lors une définition réciproque, possiblement, et aussi une définition systémique de l'intégration, en accord d'ailleurs avec les productions doctrinales des institutions européennes qui postulaient explicitement cette dynamique de réciprocité. Bon, la lutte contre les discriminations, vous le savez bien, est toujours sur l'agenda. Des directives européennes sont venues aiguillonner la volonté gouvernementale. Je cite simplement la directive, une des premières, la directive 2043 du 29 juin 2000, dite directive race, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Elle demandait la mise en place d'une instance indépendante pour garantir la pérennité de cette lutte contre les discriminations, et ce fut, un peu plus tard, la HALD, aujourd'hui fondue dans le Défenseur des droits. La décennie 2002-2012 apporte des changements dans ce travail doctrinal. C'est une décennie pendant laquelle la droite est au pouvoir, aussi bien au gouvernement qu'à la présidence de la République. Elle va corriger autant qu'elle peut la doctrine de l'intégration dans un sens assimilationniste et énoncer une nouvelle laïcité. Les gouvernements orientés à droite n'ont pas maintenu la priorité à la non-discrimination. Ils adoptèrent à l'égard de la lutte contre les discriminations une politique que Virginie Guiraudon qualifie comme une politique de l'esquive. Et ils reciblèrent, je trouve que le terme est bien adapté, ils reciblèrent la doctrine de l'intégration sur les migrants en l'identifiant à leur assimilation. Et le mot revint à ce moment-là dans l'espace public après une longue absence liée à son usage colonial. Il n'avait pas disparu du droit de la nationalité, mais il n'était plus employé publiquement. L'intégration-assimilation est ainsi le troisième état du modèle français de l'intégration dans la période étudiée. Dans cette version, La politique d'intégration a pour objet spécifique d'accompagner l'introduction des migrants dans la société où ils sont reçus et de veiller à la dispersion spatiale et à l'assimilation culturelle des populations d'immigrés, comme on dit dans le rapport du Haut Conseil à l'intégration de 2011. Le contrat d'accueil et d'intégration, généralisé et rendu obligatoire en 2006, fut l'instrument privilégié de ce recentrement de la politique d'intégration sur les primo-migrants. Mais c'est en matière de laïcité que la doctrine de cette période effectua le revirement le plus spectaculaire. Aucun gouvernement n'avait pris sur lui d'assumer explicitement la valeur libérale de la laïcité de droit énoncée en 89 par le Conseil d'État et de l'expliquer aux Français. Et à l'inverse, la formulation des années 2000 va bénéficier d'une très importante publicité politique et médiatique sous le label de « nouvelle laïcité ». La formule apparut d'abord dans le titre du rapport rendu par François Baroin au chef de l'État au printemps 2003 pour une nouvelle laïcité. Et dans la foulée, l'expression servit de label dans l'entreprise politique conduite pour faire changer le droit applicable, au moins à l'école, en matière de signes religieux. Elle allait être ensuite abondamment reprise. Dans cette campagne, la laïcité fut associée, c'est le nouvel choix de cette doctrine, à l'identité nationale et le hijab identifié comme signe politico-religieux, manifestant un rejet de cette identité et une autodiscrimination. Ces termes sont d'abord dans le rapport Baroin et également dans une circulaire dont on parlera tout à l'heure, la circulaire Bérou pour l'école, et se retrouvent dans le rapport Stasi, remis en décembre, le 11 décembre 2003, au chef de l'État, rapport sur l'application du principe de laïcité dans la République. La campagne déboucha, on le sait, sur le vote de la loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves de porter des signes religieux. Et l'intitulé de la loi dénote son enjeu politique, loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, en application du principe de laïcité. Donc, il s'agissait donc de présenter l'interdit comme découlant du principe de laïcité, alors que nous avons vu que d'un point de vue juridique, ce n'est pas exact. L'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État affirme la liberté de conscience et le fameux article 9 de la Convention européenne couple cette liberté à une liberté d'expression religieuse protégée de façon très élevée. La loi de 1904 restreint en fait dans l'espace scolaire une liberté qui est de droit reconnue partout ailleurs, au moins en principe, ailleurs qu'à l'école, au titre même de la laïcité. Elle a échappé à la censure du droit en faisant valoir la protection des élèves contre le prosélytisme dans cet espace spécifique qu'est l'école. Mais les essais ultérieurs pour étendre l'interdit des signes religieux en dehors du rapport pédagogique au nom de l'application de la laïcité, par exemple dans les entreprises ou bien dans les universités, n'ont pas été couronnés de succès. Et c'est également sur le fondement du droit qu'après différentes péripéties, l'interdiction faite aux accompagnatrices de sortie scolaire de porter un signe religieux, interdiction en mars 2012 par le ministre Châtel, a été déclarée par le Conseil d'État non conforme au droit dans une étude suscitée par le Défenseur des droits en 2013, puis supprimée par le ministère lui-même en 2015. On arrive à l'étape finale de cette évolution, 2013, une certaine forme de stabilisation doctrinale, à mon avis, caractérisée par une formule complexe. D'une part, l'intégration couplée à l'inclusion, il faudrait développer ce que signifie ce terme, mais je ne vais pas le faire là, et à la lutte contre les discriminations, et la laïcité couplée au vivre ensemble. Cette stabilisation date de la dite refondation de la politique d'intégration en 2013. Dans cette nouvelle version, l'intégration est réadressée à la société dans son ensemble. Elle est vue comme une question sociale au sens de sociétal. L'intégration, je cite Thierry Thuot, est le phénomène social par lequel se dissipe le rôle majeur joué par l'origine réelle ou supposée dans les difficultés sociales rencontrées par une personne. Autrement dit, l'intégration, c'est le changement des rapports sociaux dans lequel s'affaiblissent les effets négatifs qui découlent des discriminations ethniques ou raciales. Le rôle majeur joué par l'origine réelle ou supposée dans les difficultés sociales rencontrées par une personne, c'est les discriminations et plus largement les formes d'inégalité liées à l'origine ethnique. Et une politique d'intégration, dans ce sens, est l'ensemble des actions publiques qui contribuent à cet affaiblissement. La lutte contre les discriminations, mobilisant le droit antidiscriminatoire, en est une composante, mais une politique d'intégration ne saurait s'y réduire. L'intégration devrait devenir, en fait, une dimension ordinaire de l'action publique dans tous les secteurs, au service d'une vision proactive de l'idéal d'égalité et de justice sociale. Cette conception de l'intégration se débarrasse donc du cadrage identitaire que j'ai noté tout à l'heure, cadrage identitaire ou cadrage culturel. L'intégration ne relève pas de l'identité ni de la culture, et elle relativise aussi le cadrage juridique pour l'inscrire dans une philosophie renouvelée de la justice sociale. Elle se débarrasse aussi, on peut le noter, du mot même d'intégration. Cette conception rejoint ainsi la demande constante des individus minorisés pour une meilleure assurance de leurs droits et de leur dignité dans une société inclusive. Et le titre du rapport de Thierry Thuot porte « Pour une société inclusive ». Bon, c'est dans le détail que ça risque d'achopper, dans la détermination de ce que doivent faire les services pour être vraiment inclusifs, ou encore dans la détermination des libertés dont disposent les minoritaires. Et c'est ici que la doctrine de l'intégration retrouve le débat sur la laïcité. En ce qui concerne la laïcité, la période n'apporte pas à proprement parler de reformulation, mais elle apporte un changement très important, qui consiste à assumer politiquement le droit de la laïcité. Il s'agit de tenter de sortir du piège qu'a constitué d'abord le décalage entre le droit et les représentations communes de la laïcité dans les années 90, puis le bras de fer entre le droit et la loi dans les années 2000. Émerge alors l'idée d'une pédagogie publique de la laïcité adossée au droit, visant à faire évoluer la conscience publique de la laïcité. Parmi les mesures qui la mettent en œuvre, la première d'entre elles, c'est en 2013 la mise en place d'un nouveau dispositif de réflexion doctrinale, l'Observatoire national de la laïcité, en charge de diffuser études, avis et rapports annuels. Son premier rapport en mai 2014 se veut rassurant, tout en appelant à la vigilance, et force est de constater que l'idée d'apaiser les tensions sociétales et politiques par une pédagogie de la laïcité, une pédagogie obstinée sur la durée, prônant le vivre ensemble dans un cadre respectueux du pluralisme religieux, comme de la neutralité de l'État, est bien accueillie dans les différents ministères et reçoit dans l'opinion publique du soutien. C'est le cas aussi parmi les parents d'élèves. On va le voir. Parmi la foison des documents qui illustrent cette politique de pédagogie sociétale, il faut signaler le livret publié par le ministère de la Défense, sous le titre « Expliquer la laïcité française, une pédagogie par l'exemple de la laïcité militaire », un nouveau concept qui date de novembre 2017. Et surtout, je retiens le guide interministériel « Valeurs de la République et laïcité », kit pédagogique de formation, qui a été publié sous l'égide du Premier ministre et avec lequel de très nombreuses formations ont été montées parmi les agents publics ou parmi les responsables associatifs. Et par conséquent, nous avons maintenant une doctrine politico-administrative à peu près consensuelle sur l'intégration et la laïcité, mais qui le sait ? Nous n'avons pas eu de grand discours politique pour la proclamer. La dernière occasion où la question a été mise sur l'agenda, c'était à l'automne 2013, je vous le rappelle, lorsqu'il était question justement de refonder la politique d'intégration. Après le rapport Thuot, le gouvernement a mis en place 5 commissions de travail pour décliner les propositions. Et l'une d'elles a écrit dans son rapport qu'il serait souhaitable de rapporter la loi du 15 mars 2004, qui génère plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le journal Le Figaro s'est emparé de cette proposition, a provoqué un beau chahut médiatique, devant quoi le gouvernement a remisé ses projets de nouveaux discours. Pas de discours, donc, mais des comités interministériels, où tous les ministères doivent faire des annonces dans ce sens-là. Et l'école ? Est-ce qu'il y a une doctrine scolaire qui a suivi ? Quelle doctrine scolaire ? L'école a suivi dans une certaine mesure, sous la présidence Hollande, en particulier sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem, le ministère s'est rallié à la solution doctrinale émergente sur la pluralité ethno-religieuse dont je viens de parler, et notamment en matière de laïcité. Il l'a promue dans le cadre de la grande mobilisation sur, de l'école, proclamée à la suite des attentats de janvier 2015, et il a participé avec les autres ministères à ce kit « Valeurs de la République et laïcité », et il l'a même mis en ligne sur Eduscol. Mais il l'a promue, je dirais, en sourdine, sans discours. Le discours était très difficile à l'époque d'un point de vue stratégique. Après le changement politique de 2017, le nouveau ministre j'ai de nouveau changé ma page. Excusez ma maladresse, je reviens. Voilà. Après le changement politique de 2017, le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer n'a pas caché son hostilité à cette conception. Et il a réuni un conseil dit de sages sur la laïcité, formé d'une majorité de personnalités hostiles à la doctrine libérale de la laïcité, mais incluant le président de l'Observatoire national de la laïcité, Jean-Louis Bianco, qui a fait son travail, finalement. Et le vademécum de la laïcité à l'école, publié en mai 2018, destiné à servir de référence aux praticiens, donc ne change pas le droit, finalement, et notamment vis-à-vis des accompagnatrices. Malgré des déclarations contraires. Pour autant, le ministère n'a pas élaboré de doctrine de la pluralité ethno-religieuse à proprement parler. En fait, il s'y était clairement refusé dans les années 80, je vais venir rapidement, encore une fois dans les années 90, puis en 2010-2012, il y a eu carrément une forte offensive pour qu'il adopte une position clairement anti-libérale de la laïcité. Cette tentative a échoué et aujourd'hui, sans doctrine, le ministère rejoint bon gré mal gré la position gouvernementale commune. Je vais donc évoquer en quatre temps, je crois que je suis encore dans mes temps, l'évolution du ministère de l'Éducation nationale, une évolution, vous voyez, relativement autonome par rapport au reste du gouvernement, mais aussi une évolution. Alors, je rappelle le premier temps, les années 80. Donc, le ministère de l'Éducation nationale avait précédé les autres ministères et le gouvernement dans l'hypothèse d'un travail doctrinal spécifique relatif à la pluralité socio-ethnique. Et c'était dès les années 70, avec une circulaire sur le dialogue interculturel, et puis repris dans les années 80 avec la commande à l'islamologue Jacques Berck d'un rapport sur l'accueil des enfants d'immigrés à l'école. Ce rapport a été remis en décembre 85, juste au moment où la majorité allait perdre le pouvoir. La majorité de l'époque socialiste allait perdre le pouvoir. Ce rapport est très intéressant, c'est pourquoi je m'y arrête un tout petit peu. Il garde toute une actualité, en fait. C'est un rapport plutôt visionnaire de Jacques Berck, qui était tout à fait instruit par le désastre de la fin de la colonisation. Jacques Berck était quelqu'un qui était né en Algérie, hein, qui avait fait le début de sa carrière au Maroc, à l'époque du protectorat, puis au moment de l'indépendance, et qui avait connu donc, la débâcle algérienne. Il était fort marqué. Pour Berck, il s'agit, et on retrouve là une idée finalement qu'on pris corps maintenant, à la fin des années 2010, on retrouve l'idée d'une pédagogie à destination du corps social tout entier pour, dit-il, solidariser les présences. Il est éloigné d'une lecture culturaliste des problèmes, ainsi que d'une approche assimilationniste. Il définissait les jeunes de la deuxième génération d'une façon émouvante. Je l'ai mentionné, je crois, oui. Comment se définir comme un cas particulier des classes besogneuses, comme une fraction défavorisée de la jeunesse, ou plutôt comme une étrange peuplade, projetée d'un ailleurs qui s'estompe vers des terroirs incertains et des lendemains bâillonnés. Au vrai, ces jeunes, ils sont leur interrogation même. Burke invitait dès lors à reconnaître non pas les supposées différences qui versent, dit-il, dans le folklorisme ou le paternalisme, mais le changement sociétal dans sa complexité, ce qu'il osait nommer, et à présent ça prend tout un sens, la dimension islamo-méditerranéenne de la France. À l'époque, c'était absolument pas compréhensible, je crois. La proposition n'eut pas de suite, en fait. Le gouvernement tomba et on n'en retrouve pas trace dans les travaux du Haut Conseil à l'intégration en 91, dont la doctrine de l'intégration, 6 ans plus tard, s'empêtre, vous vous en souvenez, dans l'idée qu'il faut reconnaître les différences culturelles tout en respectant la tradition républicaine d'inspiration assimilationniste. Le ministère de l'Éducation nationale choisit de couper court à l'idée de faire quelque chose pour que le changement de la population scolaire soit répercuté dans l'école. On réaffirma le principe d'unité de traitement et dès lors les mots immigrés, enfants d'immigrés, interculturels, diversité au sens ethnoculturel et a fortiori différence sortirent du vocabulaire autorisé. Année 90, autre recul et autre refus. Dans ces années-là, les efforts libéraux pour reformuler la laïcité, pour donner une doctrine de la laïcité qui respecte les libertés, ne sont pas repris dans l'école. Et même, ils trouvent une opposition assez forte, ni non plus l'idée de discrimination institutionnelle. Ces idées, pourtant, avaient été soutenues par un travail intéressant, en particulier le travail de la Ligue de l'enseignement, une autorité en matière de laïcité, de façon indubitable, travail auquel sont associés les noms de Michel Morineau d'abord, puis Pierre Tournemire, un travail qui dure depuis des décennies, puisqu'il avait été amorcé dès 1984, dès l'échec de la loi Savary sur le nouveau service public de l'éducation. Un travail donc au long cours, animé par l'équipe centrale de la Ligue, avec des productions doctrinales significatives et un site dédié à cette doctrine de la laïcité. Ben, ce n'est pas relayé par le discours ministériel. Un autre apport évincé, c'est celui de la lutte contre les discriminations. Dans le chapitre École du rapport 1998 du HCI, il était consacré à la lutte contre les discriminations qui prennent une dimension systémique à l'école. Le chapitre reposait sur des travaux sociologiques, donc sur des travaux savants disponibles, non douteux, mais là non plus, pas d'écho dans l'espace scolaire. Et l'avis du Conseil d'État en novembre 89 sur la liberté d'expression religieuse des élèves avait été répercuté, avait trouvé une traduction dans la circulaire ministérielle qui a été prise à la suite, c'était impossible de faire autrement. Mais dès la rentrée 94, une circulaire, la circulaire Bérou, j'en parlais tout à l'heure, vint requalifier le port du foulard islamique à l'école en faisant une forme de rejet de, je cite, l'idée française de la nation et de la République. Circulaire de septembre 94 de François Bérou, dit circulaire sur les signes ostentatoires. Ce sont ces signes, dit le texte, des signes ostentatoires en soi, dont la signification est de séparer certains élèves des règles de vie commune de l'école, et qui sont, je cite encore, en eux-mêmes des éléments de prosélytisme. Donc, quelle que soit la conduite des élèves par rapport à l'ordre scolaire, ils sont en eux-mêmes des signes de prosélytisme. C'est une interprétation du symbolisme des signes à laquelle s'était refusé jusque-là le Conseil d'État et à laquelle il se refuse toujours. Troisième temps de cette évolution, les années 2000-2012, qui vont voir d'abord, côté ministère, une sorte d'effort pour rattraper la violence symbolique de la loi de 2004. Cet effort n'a pas été vraiment vu dans l'opinion publique, mais il a bel et bien existé. Puis surtout sous la présidence Sarkozy, une offensive en faveur d'une doctrine antilibérale de la laïcité venant de la mission pédagogie de la laïcité créée au sein du Haut Conseil à l'intégration en 2010 et jusqu'à 2012, mission présidée par un inspecteur de l'éducation nationale, Alain Sexy. La campagne pour l'interdiction des signes en 2003 n'avait pas été conduite, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, par le ministère lui-même. Ses cadres n'étaient majoritairement pas sur la ligne nationaliste, voire anti-musulmane, qui prévalait à l'époque. La circulaire d'application de la loi de 2004 est à remarquer, justement, pour l'effort qu'elle fait pour affirmer une éthique de l'invisibilité religieuse qui ne soit pas chargée de mépris pour les élèves et pour les familles. Il s'agissait finalement de contrebalancer la violence symbolique pour l'école, de l'épisode et de la loi elle-même, qui avait quelque chose de choquant au sein de l'école. Le long préambule, tout en étant attendu quand même, c'est le vrai, mais le long préambule de la circulaire est à remarquer, il s'intitule « Les principes » et il pose un cadre normatif qui tend à présenter l'interdiction sous un jour positif. L'exigence imposée aux élèves, explique le préambule, est le départ d'une nouvelle exigence pour l'école, pour tout le monde. La circulaire reconnaît non seulement la liberté de conscience des élèves, mais l'exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. Et elle affirme, je cite, « une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination dans l'espace scolaire, ainsi que l'impératif, je cite, de travailler à la connaissance réciproque, y compris en matière de religion, en faveur d'un vouloir vivre ensemble, d'un vouloir vivre ensemble ». Ce sont des expressions tout à fait nouvelles dans la réglementation scolaire. La réglementation incitative ici, non décisionnelle. Cependant, dans les faits, la question sensible de la discrimination ethnique, à peine ouverte d'un point de vue doctrinal, fut refermée. Et dans les établissements, appliquer la laïcité, comme on dit, devint synonyme d'interdire les signes religieux chez les élèves et les sanctionner. Le rapport du Haut Conseil à l'intégration de 2010 sur l'école, les défis de l'intégration à l'école, illustre cette position prohibitionniste et prône l'extension de l'exigence de neutralité. Il défend notamment la création d'un nouveau statut de droit public, celui de collaborateur du service public destiné aux mères accompagnatrices. Statut qui a été donc refusé, considéré comme non légal par le Conseil d'État. Enfin, en 2012 et 2013, une charte de la laïcité est élaborée par la commission laïcité du HCI, reprise par l'inspection générale en 2013 et conçue pour survivre à la transition politique. Elle aussi est fortement normative et, concernant l'école, insiste sur la prohibition des signes religieux. C'est toujours l'antienne, appliquer la laïcité, c'est interdire. Mais le dernier article de la charte, manifestement, a ajouté, il faudrait analyser ce qui s'est passé à ce moment-là, ça n'a pas été fait de façon détaillée. En tout cas, il ouvre sur les libertés des élèves en disant, article 15, « par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement ». Un article qui est en général pas tellement compris par les praticiens et qui n'est pas expliqué non plus forcément par les formateurs. Dernier temps, les années 2013 et suivantes. Avec le changement de majorité politique, on observe un ralliement de facto du ministère à la doctrine de la laïcité libérale et de l'intégration antidiscriminatoire. Pour l'école, la loi de 2013 est en cohérence avec cette orientation, en particulier lorsqu'elle annonce la mise en place d'un nouvel enseignement moral et civique qu'elle définit ainsi, je cite, « l'école, notamment par un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines, de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la laïcité », loi de refondation de l'école et de la République du 8 juillet 2013, article 41. Cet enseignement EMC a bien été conçu et mis en œuvre en 2015 et il était très novateur au départ. Il a commencé à être un peu raboté par le ministère Blanquer, mais il existe toujours et avec un programme qui reste beaucoup plus riche que l'instruction civique traditionnelle, qui comprend un versant moral intéressant. Le ministère a ainsi reçu mandat en 2013, mais discrètement, de renoncer à la conception assimilationniste qui a été la sienne depuis le milieu des années 80. Il a rejoint en principe les autres ministères sur une conception inclusive et libérale de la laïcité, conforme au droit public. Et comme je l'ai dit, il a participé au guide interministériel de formation. Mais il n'est pas question de revenir sur l'interdiction faite aux élèves en application du principe de laïcité de porter des signes religieux. Et après le changement politique de 2017, le ministère Blanquer n'a pas caché son hostilité à cette conception libérale, sans réussir néanmoins à changer la réglementation. À l'inverse, vous vous en souvenez, c'est tout récent, la FCPE a mis en circulation, pour les élections des parents d'élèves à la rentrée 2019, un jeu d'affiches dont l'une montrait une jeune et jolie mère voilée, souriante à son enfant. J'espère que vous l'avez en tête, je n'ai pas eu l'idée de le reproduire. Ce qui a suscité dans la sphère politico-médiatique un concert de protestation, mais c'est un affichage clair que la FCPE a sa volonté d'interpréter la laïcité conformément au droit. En fait, en l'absence d'un discours politique clair et audible sur ces questions, l'institution scolaire cultive sa marge d'autonomie. À la différence de l'armée, elle ne s'est pas dotée d'une doctrine de la diversité de son public et elle entretient, c'est plus grave, le flou chez ses agents, ce qui est lourd de conséquences au quotidien. Conclusion. Cette doctrine, la doctrine gouvernementale de l'intégration, n'est pas figée, contrairement à ce que dit l'expression « le modèle français de l'intégration ». Il n'y a pas de modèle français de l'intégration. Cette idée est une construction sociologico-idéologique ou bien idéologico-sociologique, comme on veut. Sur 30 ans, la doctrine a évolué en fonction des options politiques des gouvernements, j'ai tenté de le montrer. Aujourd'hui, elle en est arrivée à une formule qui pourrait être stable sur le fond, car, d'une part, elle est en accord avec le droit et elle est en accord aussi avec les demandes de base des descendants de l'immigration postcoloniale, ce qui est très important pour une société apaisée. L'intégration est couplée à l'inclusion, c'est-à-dire à un travail des institutions pour adapter leur fonctionnement aux besoins et à la lutte contre les discriminations. Et la laïcité est couplée au vivre ensemble. Cette doctrine passe-t-elle dans la loi et le règlement? Se décline-t-elle dans les différents secteurs de l'action publique? Dans l'armée, je l'ai dit rapidement, oui. L'armée a adopté une doctrine spécifiée de la laïcité militaire, donc qui est très libérale, et elle a des démarches expressément inclusives vis-à-vis des minoritaires, qui passent par la distribution des barquettes halal, par l'organisation du séminaire, par toute une aumônerie militaire avec des aumôniers musulmans, etc., etc. À l'école, c'est beaucoup plus incertain. Cette doctrine, c'est déjà un pas, n'est plus contredite, mais elle n'est pas non plus expressément dispensée dans les inspé qui préparent les jeunes au concours de recrutement, ni adoptée d'ailleurs dans les concours comme référence. Les références bibliographiques dans les concours continuent à être sur ces questions. Henri Pénard-Ruiz, Catherine Kitzler, etc. Donc, la posture répressive à l'égard des expressions religieuses des élèves continue à être adoptée comme la posture typique et elle se réfère, bien entendu, toujours à la loi de 2004 et à la charte de la laïcité. Cette expression « loi de 2004 prise en application du principe de laïcité » produit effectivement des effets à long terme. Donc le ministère n'assume pas la tâche d'élaboration doctrinale de son action dans ce domaine et en résultat, les praticiens de tout niveau, y compris les inspecteurs, y compris les formateurs inspé, les formateurs académiques et bien entendu les praticiens, les professeurs dans leur classe évoluent entre incertitude et confusion. Et là, on a déjà une thèse qui le montre sur la laïcité, c'est la thèse de Valérie Orange, qui a été soutenue en 2019 à l'Université de Montréal, une autre en préparation sur la religion, Vanille Laborde, en cours, montre exactement cela. Et voilà, quelques références bibliographiques peu lisibles. Mais ça sera dans le PowerPoint enregistré. Je vous remercie.